Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur nos ondes locales. Nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Bonjour à tous. Nous proposons à nos auditeurs une promenade en forêt de Seillon pour revisiter son passé.
Ce bel ensemble forestier de plus de 600 hectares est, en effet, cher aux Burgiens et aux habitants des communes voisines qui aiment le parcourir en toute saison pour apprécier cette futaie de chênes.
Nous en parlons après vous avoir emmené quelques instants dans la forêt. Nous évoquons la forêt de Seillon, qui s'étend à proximité de Bourg, essentiellement sur la commune de Perona. Nous remontons d'abord aux temps les plus anciens.
Et bien jusqu'à l'ère quaternaire, qui voit la dernière glaciation. Le glacier alpin s'étend alors presque jusqu'au confluent du Rhône et de la Saône. Il recouvre toute la Dombes actuelle et arrive aux portes de Bourg.
Et ensuite ?
L'atmosphère se réchauffe et le glacier se retire peu à peu. La végétation occupe progressivement le terrain délaissé. Aux herbes diverses succéderont les arbustes, puis les arbres, d'abord des saules, des bouleaux, des pins, puis des hêtres, chênes et autres feuillus de grandes tiges. Une forêt primitive en quelque sorte.
Oui, qu'il est bien difficile d'imaginer de nos jours. On la décrit volontiers comme impénétrable, par sa densité ou par les ronces et arbrisseaux qui tapissent le sol. Mais aujourd'hui, les historiens sont plus dubitatifs sur l'épaisseur de cette forêt primitive.
Elle est en effet parcourue ou habitée par des animaux. Les chevreuils et les cerfs se nourrissent volontiers de la tête des arbustes, condamnant ainsi leur croissance. Ces cervidés sont eux-mêmes chassés par des loups. Les sangliers et les rongeurs se régalent des fruits tombés à terre, limitant là aussi les germinations ou les favorisant, lorsque les écureuils oublient leur cachette.
Tout un écosystème s'installe et régule l'ensemble. En toute harmonie ? Peut-être pas. Mais la forêt se met en place selon le contexte local, avec un mélange d'arbres et de plantes de toute taille. Chaque élément se débat pour accéder au soleil et joue pour cela sur les saisons.
Mais un intrus va bouleverser cet état de fait. C'est l'homme. Ce prédateur absolu qui, lui-même, n'a pas de prédateur. Avant d'arriver à ce stade, beaucoup de temps s'écoule.
L'homme est d'abord cueilleur, puis chasseur-cueilleur. Il se déplace en suivant les cours d'eau et en se repérant grâce à eux. Ensuite, il développe des outils de plus en plus performants et des techniques de chasse de plus en plus élaborées pour se procurer de la viande et des vêtements. Enfin, il va se sédentariser après avoir appris la culture et l'élevage.
Il a déjà parcouru la Bresse et la forêt de Seillon. Quand ? Ah, ma foi, difficile à dire pour une contrée très marécageuse. Les traces archéologiques se sont effacées en plaine, où le sol a été perpétuellement retourné.
Parlons ensuite des Gaulois, des maîtres en agriculture. Ils savent fabriquer des véhicules agricoles et des tonneaux, des produits issus des arbres. Les Romains ont beaucoup appris d'eux avant de les coloniser.
La future cité de Bourg apparaît à ce moment-là. À la chute de l'Empire romain, succèdent l'occupation burgonde et la période féodale. Des communautés religieuses s'installent alors dans les déserts, c'est-à-dire des contrées boisées non peuplées.
C'est le cas de notre forêt de Seillon. Et des bénédictins y créent un monastère en 1169. Ils choisissent ensuite la règle de Saint-Bruno en 1178 et le monastère devient une chartreuse. Elle reçoit plusieurs donations ou privilèges, notamment de la part des seigneurs du Cé, qui lui confient l'usage de la forêt de Seillon.
Nous sommes au temps féodaux, où la seigneurie de Bagé est la puissance dominante de la Bresse. Et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, le mariage de l'héritière Sibylle avec le comte de Savoie en 1272 change la destinée de la Bresse.
La ville de Bourg prend de l'importance, sa population augmente et ses habitants ont davantage besoin de bois pour élever leurs bâtisses, se chauffer et surtout cuire leurs aliments au quotidien. Il suffit de se promener dans le bourg ancien d'aujourd'hui pour découvrir comment étaient bâties les maisons de ville. Les bois de leur ossature apparaissent dans leurs hautes façades.
Pour cela, il faut des chênes de haute taille. Dans une forêt libre sur le sol bressant, les hêtres domineraient les chênes. Alors, pour répondre à la demande de bois d'œuvre, les moines ont appris à privilégier les chênes face aux hêtres.
Et si ces chênes sont proches les uns des autres, ils s'élèvent davantage vers le ciel et la lumière. Et leur tronc offre des bois plus longs et plus larges pour construire les maisons et pour d'autres usages.
On peut ainsi évoquer l'église Notre-Dame ou celle de Brou. Il a déjà fallu beaucoup de bois pour les échafaudages pour monter leurs murs de pierre. Aujourd'hui, à l'intérieur, nous pouvons encore admirer leurs belles stalles. Elles ont sans doute été établies avec des chaînes de seillons.
À l'époque, les porcs sont les compagnons indispensables des hommes. Ceux-ci les envoient volontiers en forêt de seillons pour se nourrir de glands. Les valets conducteurs des troupeaux récoltent du bois mort. Tout est toléré. Mais face aux déprédations, les conflits se multiplient. Les habitants de Bourg se heurtent aux moines qui ont les droits ancestraux d'usage de la forêt. Les chartreux peuvent saisir les porcs des marchands de Bourg.
Alors, sont-ils indifférents aux difficultés des gens du peuple ?
Non, pas tout à fait. Ils offrent volontiers des soupes populaires aux indigents de la ville. Mais une forêt, c'est fragile et c'est un capital à préserver. En effet, il ne faut pas que ces animaux divaguent dans les secteurs en régénération où ils abîmeraient les jeunes pousses, les baliveaux. En général, les moines désignent les secteurs accessibles et fixent les périodes autorisées.
Autre période importante mais peu favorable, la conquête française par les armes. Comme toujours, la guerre s'accompagne de ravages pour toute la Bresse et pour la Chartreuse. La paix revient le 17 janvier 1601 avec le traité de Lyon. Les pays de l'Ain sont désormais français. Et il faut quelques décennies pour effacer les plaies et retrouver de la prospérité.
La chartreuse de Seillon est restaurée. Les moines sont toujours rigoureux dans leurs affaires. Et leur communauté devient l'une des plus florissantes de leur ordre. Bien sûr, ce ne sont pas eux qui travaillent en forêt. Ils emploient des paysans et gèrent au mieux les affaires. Les archives indiquent que des scieurs de long auvergnat viennent travailler en forêt de Seillon en saison hivernale.
La forêt est ecclésiastique, mais elle n'échappe pas aux lois du royaume de France. Et plus particulièrement à l'ordonnance de Colbert, qui institue le premier code forestier en 1669. Le royaume veut préserver les ressources de la forêt française pour y trouver les arbres nécessaires à la construction de ses bateaux. Il a un droit de préemption sur les plus beaux arbres, notamment les chênes dans les zones de plaine. Des chênes de Seillon partent ainsi pour Toulon.
Les troncs des chênes sont d'abord conduits par des attelages de bœufs jusqu'à Pondin. Là, ils sont assemblés en train de bois et ils sont confiés à la rivière d'Ain. Lorsque le niveau d'eau est suffisant, ils débutent leur voyage fluvial par l'Ain, le Rhône et un canal pour rejoindre les chantiers navals de Toulon.
Les années difficiles amènent la révolution de 1789. Et les biens de l'Église sont mis à la disposition de la nation en novembre de la même année. Seillon, Chartreuse et Forêt entrent dans le domaine de l'État. Peu après, les moines quittent leur bâtiment et la forêt est gérée par le directoire du département de l'Ain.
Et là, deux épisodes interviennent, plus proches de la légende que de la réalité. D'abord, les compagnons de Jéhu. Alexandre Dumas situe son roman à Seillon, à Brou et à Césaria, ces lieux étant censés être reliés par des souterrains.
Ensuite, le trésor des Chartreux. Là, c'est plus qu'une légende, car le préfet a autorisé des recherches officielles en forêt de Seillon au printemps de 1858. On n'a rien trouvé, mais la rumeur reste vivace et des anciens de Perona et des alentours continuent à la rappeler. Ce trésor aurait été emporté par le dernier Chartreux et d'autres disent qu'il a été trouvé et subtilisé lors de la construction du chemin de fer.
Oui. Revenons maintenant un peu en arrière. L'Empire succède à la Révolution et Napoléon veut une marine capable de rivaliser avec celle d'Angleterre. De nombreux chênes sont encore dirigés vers Toulon et ainsi disparaissent les derniers Savoyards, c'est-à-dire les chênes d'avant la conquête française, datant donc de plus de 200 ans.
Un plan de réaménagement de la forêt est nécessaire et plus de 50 000 arbres sont replantés à l'initiative de l'inspecteur des forêts, Antoine-Alexis Leduc. Cette opération est célébrée par un monument à la gloire de Napoléon, haut de plus de 2,80 m, surmonté par un aigle impérial. Cela se passe en avril 1810, au moment où l'Empire est à son apogée.
Mais l'Empire ne survit pas. Et ce monument est détruit sous la Restauration en 1814 ou 1815. La forêt de Seillon a encore besoin d'être réaménagée et un vaste plan est lancé en 1839. Elle est alors divisée en deux sections, la plus importante pour être exploitée en futaie, dont 60% de chêne, et l'autre en taillis sous futaie. Les autres essences sont pour le bois de chauffage et les bouleaux pour la fabrication des sabots, très utilisés en Bresse.
Les loups ont disparu. Les derniers ont été chassés lors de l'hiver très rigoureux de 1829-1830. Il n'y en a jamais eu beaucoup, car les travailleurs du bois étaient très nombreux en forêt de Seillon et les loups fuient l'homme.
D'autres animaux que les porcs sont conduits en forêt. Ce sont les bovins de Bourg, mais seulement dans les cantons autorisés, là où ils ne mettent pas les arbres en danger. Ils viennent paître les herbages et ils apportent une fumure utile à la forêt. Toujours une convergence d'intérêts au sein de la nature.
Sous le Second Empire, le chemin de fer traverse la forêt et la tranchée de Seillon est faite sous l'égide d'une entreprise de Seillon. La moraine glaciaire est traversée et les remblais forment ce que l'on appelle les buttes de Seillon et qui font le bonheur des vététistes.
La forêt de Seillon retrouve une vocation militaire avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Son couvert est utilisé comme dépôt d'armes, d'abord par l'armée française, qui utilise des réfugiés espagnols pour empirer les chemins. Leur œuvre est encore visible aujourd'hui. Ensuite, pendant la guerre, par l'armée allemande. L'accès à la forêt est alors interdit.
Ce dépôt a mis les Bressans dans la peur lors du retrait des Allemands, qui avaient l'ordre de tout faire exploser. Heureusement, le maire de Perona est intervenu. Et les explosions ont été limitées, mais elles ont été entendues jusqu'en Haute-Bresse, à plus de 30 km.
Après cette guerre, la forêt reste exploitée par l'Office national des forêts pour la protection du bois. Mais elle devient aussi un espace de loisirs pour tous les riverains. Des parcours sont aménagés en concertation avec les collectivités. C'est un lieu plaisant et apaisant pour les familles et pour les sportifs.
Nous avons évoqué bien des épisodes et il nous en reste un dernier. Offrir un bouquet du célèbre muguet de Seillon dont on a fait un parfum en 1929 et c'est une marque déposée.
Avec ce muguet odorant, il nous reste à inviter nos auditeurs à parcourir le site internet des Chroniques de Bresse pour des compléments illustrés, à remercier nos collaborateurs et Jimmy à la technique. Nous nous quittons avec la Xardas de Vittorio Monti, par Nemanja Radulovic au violon et Yvan Kassar au piano.
Et alors, rendez-vous dans un mois pour une nouvelle chronique du passé. Au revoir à tous.